Vous écoutez, on lit pour vous.
Nouvelle vision de l'action gouvernementale à l'égard des personnes handicapées. Un texte de la rédaction paru le 30 avril 2025 sur le site de l'Office des personnes handicapées du Québec, OPHQ. Le gouvernement met en place une nouvelle vision de l'action gouvernementale à l'égard des personnes handicapées pour améliorer leur participation sociale. Cette vision collaborative a pour but de réduire les obstacles encore persistants. Elle propose une réponse contemporaine aux enjeux d'aujourd'hui et de demain pour les personnes handicapées. Une vision pour une société plus inclusive. La vision guidera les interventions des ministères, des organismes publics et de leurs partenaires au cours des 5 prochaines années. Elle propose des actions concrètes pour réduire les obstacles encore présents dans plusieurs domaines. Pensons à l'habitation, à l'éducation, à l'emploi, à l'accessibilité des lieux, aux déplacements, aux communications et à l'accès aux services. 3 objectifs clairs. La vision commune de l'action gouvernementale à l'égard des personnes handicapées 2025-2030 vise à appuyer l'engagement des ministères, des organismes ainsi que de leurs partenaires dans la mise en œuvre de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale et de la politique à part entière. Renforcer le rôle de coordination de l'Office des personnes handicapées dans l'identification, la promotion et la mise en place de solutions. Canaliser les efforts collectifs et optimiser l'utilisation des ressources vers l'atteinte de résultats structurants. 3 grands axes d'intervention. Pour atteindre ces objectifs, la vision repose sur 3 axes. Les consultations sur la loi afin de faire le point sur sa portée, sa mise en œuvre et son avenir. La coordination et la collaboration dans des travaux interministériels pour continuer à agir de manière complémentaire. L'amélioration continue des plans d'action annuels à l'égard des personnes handicapées pour mieux cibler les mesures et en accroître les retombées concrètes. Ces axes visent à structurer les efforts de tous les acteurs concernés et à favoriser une plus grande cohérence des interventions. L'objectif est de soutenir des avancées durables au bénéfice des personnes handicapées. L'Office des personnes handicapées coordonnera la mise en œuvre de la vision et publiera un rapport annuel sur les progrès réalisés. C'était « Nouvelle vision de l'action gouvernementale à l'égard des personnes handicapées », un texte de la rédaction paru le 30 avril 2025 sur le site de l'Office des personnes handicapées du Québec, OPHQ.
Les entreprises québécoises peuvent-elles espérer croître en Europe? Un texte de Xavier Savard-Fournier paru le 8 mai 2025 dans Le Devoir. Depuis l'annonce des tarifs douaniers du président américain Donald Trump, le gouvernement du Québec ne cesse de parler de diversification des marchés, notamment en Europe. Sur le terrain, toutefois, il semble que ce soit surtout les entreprises déjà présentes à l'international et dans certains secteurs d'affaires bien précis, qui pourront en profiter pleinement. Ce n'est pas pour la beauté du village pluricentenaire DLD que l'entreprise québécoise Nanuq, qui fabrique des valises de protection rigide depuis Terrebonne, s'est implantée il y a quelques années dans la banlieue de Groningue, aux Pays-Bas. Malgré l'omniprésence des tulipes, le village aux aires de zone industrielle est surtout stratégiquement situé près de l'aéroport local et aux abords d'autoroutes vers les 3 plus grands ports d'Europe, Rotterdam, Anvers et Hambourg, ce qui offre aujourd'hui au centre de distribution européen de Nanuq une chance inouïe face aux aléas causés par les tarifs douaniers de Donald Trump. On a déjà atteint 30 % de croissance pour 2025, ce que nous faisons habituellement en une année. Et si ça continue, on devra augmenter la capacité de nos entrepôts pour répondre à la demande, sourit Herman Vaslovski, directeur général de Nanuq EU, devant ses étagères bien remplies. Tout ça est lié aux tarifs de Trump. Les Européens sont en quête de stabilité et, avec l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe, nous devenons un partenaire fiable, sans coût tarifaire supplémentaire par rapport à nos concurrents américains, ajoute l'homme d'affaires qui est aussi en période d'embauche puisque de 2000 à 4000 valises de protection rigide transitent chaque semaine par ELD depuis le début de l'année 2025. Une situation qui permet à Nanuq de conserver une croissance mondiale à 12 % alors que le marché américain représente habituellement un peu plus de la moitié de son chiffre d'affaires. À noter que les produits de l'entreprise font partie, jusqu'à nouvel ordre, des exemptions de tarifs liées à l'accord Canada-États-Unis-Mexique, ACEM. Cependant, une partie de la production en provenance du Vietnam et de la Chine est touchée par les nouvelles règles tarifaires américaines et Nanuq a décidé d'absorber ses coûts supplémentaires pour le moment. Un effort nécessaire. Dans la salle de conférence de la Délégation générale du Québec à Bruxelles, Geneviève Brisson est tout sourire malgré la grisaille typique de la capitale européenne. Aux premières loges de l'accompagnement dans la diversification vers l'Europe des entreprises du Québec, la déléguée générale croit qu'il n'y aura pas de laisser pour compte. Elle incite même toutes les entreprises touchées par les tarifs douaniers à entreprendre des démarches puisqu'il y a aussi un questionnement chez les Européens quant à leur propre dépendance économique, notamment dans les domaines clés de la défense et de l'énergie. Ce sont les deux priorités européennes, deux crises liées à l'invasion russe en Ukraine, où il y a urgence d'agir, affirme Mme Brisson. Les Européens ont un désir profond de nouvelles capacités énergétiques renouvelables, et c'est une façon concrète d'entrer sur le marché européen. Pour ce qui est des besoins grandissants en défense, le Québec est déjà très impliqué dans cette industrie-là. Herman Vaslovski observe que les Européens sont en quête de stabilité et avec l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Europe, nous devenons un partenaire fiable, sans coût tarifaire supplémentaire par rapport à nos concurrents américains. Aussi impliquée dans ce processus d'accompagnement, la vice-présidente aux exportations chez Investissement Québec, Marie-Ève Jean, est par contre plus nuancée sur ses recommandations aux entreprises. Elle reconnaît devoir parfois dire à certaines que le marché visé n'est pas nécessairement le bon. Mais la situation qu'on a avec le gouvernement américain actuellement, c'est la sonnette d'alarme dont on avait besoin au Québec. On a plus de 70 % de nos exportations qui vont vers le marché américain. Dans tous les cas, on se doit d'aider les entreprises à ne pas mettre tous leurs œufs dans le même panier. Pour sa part, Florian Menris, professeur au département de sciences économiques de l'ESGUCAM, est ravi d'entendre que les gouvernements se tournent vers de nouveaux marchés, lui qui a longtemps prêché pour une telle stratégie. Par contre, il croit que le monde politique va apprendre qu'il ne peut pas forcer toutes les entreprises à diversifier leurs marchés, ce qui pourrait favoriser des aides ciblées à celles qui souhaitent embarquer dans la danse. Il est cependant essentiel que cette question de la diversification ne parte pas dans l'oubli, si jamais ça se détendait. Car cette diversification est, du point de vue de l'économie québécoise et canadienne, vraiment nécessaire, réitère-t-il. Pas la même chance, pas le même besoin. Nous, on s'en sort très bien parce qu'on était déjà implantés en Europe et on accélère notre stratégie de diversification avec l'aide gouvernementale actuelle, explique José Chagnon, PDG de Nanuq, joint au téléphone par Le Devoir, à la suite de la visite de son centre de distribution européen. Mais si on n'avait pas déjà été présent sur le marché, ça aurait été très difficile. Il n'y a pas une compagnie qui, du jour au lendemain, peut diversifier ses marchés si elle n'avait aucun ancrage ailleurs. Ça prend des années à faire ça. Beaucoup de compagnies vont avoir besoin d'aide. Malgré les ouvertures de portes, les rencontres de haut niveau, les foires commerciales et tout l'accompagnement qu'Investissement Québec, les délégations générales du Québec ou les ambassades canadiennes offrent en ce moment, le sentiment d'insécurité et la profitabilité brute dictent encore très largement l'action des entreprises. La situation qu'on a avec le gouvernement américain actuellement, c'est la sonnette d'alarme dont on avait besoin au Québec, selon Marie-Ève Jean. C'est vrai pour l'industrie québécoise de l'aluminium, pourtant au cœur des récentes déclarations du gouvernement Legault sur la diversification des marchés. Selon Julien Houde-Laure, président de Shawinigan Aluminium, il est encore plus profitable de vendre aux États-Unis plutôt qu'en Europe, où les prix sont plus bas, d'autant que tout l'aluminium du monde est soumis à des tarifs américains de 25 % en ce moment. Les usines européennes sont toutes déjà approvisionnées et personne ne va changer 4,30 sous pour une pièce. Il faut donc être en dessous du prix pour être attractif. Et si je fais ça pendant 3 ans, j'ai assurément moins de profitabilité, moins d'employés et un moins gros volume d'activité, explique l'homme d'affaires depuis ses bureaux au Québec. Ce n'est pas populaire pour un élu de dire qu'on va continuer à travailler avec les Américains même s'ils nous font ce qu'ils nous font. Mais est-ce que l'autre option est intéressante? Pas nécessairement. Surtout parce que ce sont des chaînes d'approvisionnement qui sont longues à déplacer, pour nous comme pour les Américains, ajoute M. Houde-Laure. Ce qui n'empêche pas la mise sur glace de plusieurs projets de développement en raison de l'incertitude actuelle. Dans le cas de l'aluminium, la renégociation des contrats qui a généralement lieu à l'automne sera un bon indicateur de la tendance qui suivra. D'après Julien Houde-Laure, le président de Shawinigan Aluminium avoue tout de même préparer un voyage commercial en Europe dans les prochaines semaines, organisé grâce au soutien des différents ordres de gouvernement. Pour leur part, José Chagnon et Herman Vaslovski de chez Nanuq souhaitent regarder au-delà du petit village DLD. L'entreprise doit s'envoler prochainement pour l'Asie afin de ne pas tenir pour acquis ses bons résultats en Europe du moment, justement. C'était « Les entreprises québécoises peuvent-elles espérer croître en Europe? » Un texte de Xavier Savard-Fournier, paru le 8 mai 2025 dans Le Devoir.
La ville est-elle victoire? Un texte collectif de Claudine Labelle, Florence Agathe, Dubé Moreau et Cassia Aubin, respectivement fondatrice de Fille Active, autrice et chroniqueuse, et fondatrice de Pivot Collectif, paru le 13 mai 2025 dans La Presse. Pour les signataires, ce qu'on célèbre façonne ce qu'on valorise, et saluer les exploits de notre équipe de hockey féminin est aussi une façon d'encourager la participation des filles dans les sports. À Montréal, quand le CH entre en série, toute la ville s'habille en bleu-blanc-rouge. Fanion, vitrines décorées, rabais dans les commerces, couverture mur à mur dans les médias, même les autobus y vont d'un « go canadien, go ». C'est une langue commune, une célébration de notre identité. Et pourtant, la victoire a dominé la saison de la Ligue professionnelle de hockey féminin, LPHF, et terminé au sommet du classement, Montréal est resté presque muet. Sa capitaine, Marie-Philippe Poulin, a conclu l'année en tête des buteuses de la Ligue. C'était quand la dernière fois qu'un joueur du CH a réalisé un tel accomplissement? Et dernièrement, c'est Catherine Dubois, une Québécoise, qui a libéré son équipe d'un match marathon en marquant, en quatrième période de prolongation, pour égaliser la série contre Ottawa. Ça mérite une ville à la hauteur de ses exploits, une ville capable de vibrer avec son équipe. Les exemples de ce double standard sont trop nombreux pour être ignorés. Florence Agathe Dubé-Moreau a candidement demandé à la Société de transport de Montréal, STM, sur Instagram, pourquoi on ne voyait pas « Go, Victoire, Go » sur les autobus, comme on le fait pour le CH. La STM a répondu bien honnêtement, « On y pensera l'an prochain. » Cette réponse dit beaucoup. Même quand les femmes performent, elle reste une réflexion secondaire. Ce n'est pas un oubli, c'est un symptôme. Et c'est toute notre culture sociale et sportive qui aurait à gagner à briser ces doubles standards. Cette sous-représentation médiatique, culturelle et sociale a des conséquences concrètes. Visibiliser le sport féminin, ce n'est pas symbolique, c'est essentiel. C'est affirmer une valeur fondamentale, l'égalité. Les recherches sont claires. Plus on diffuse et valorise ses exploits, plus les jeunes filles s'y identifient, plus elles participent, plus on tend vers l'égalité réelle. C'est un levier essentiel pour promouvoir l'égalité et encourager la participation active des femmes et des filles dans toutes les sphères sportives. Comme ville, Montréal se dit inclusive et progressiste. Tant qu'on ne célèbre pas nos équipes féminines avec la même ferveur que les masculines, on perpétue un déséquilibre important. La ville de Montréal pourrait hisser le drapeau de la victoire à l'hôtel de ville, installer des écrans géants dans les parcs, créer un grand rassemblement public. Le premier ministre du Québec, qui ne cache pas sa passion pour le hockey, pourrait porter fièrement le chandail de l'équipe, ou même oser assister à un match, comme Manon Massé l'a si bien déjà fait. Une culture à repenser. Et ce n'est pas qu'une question d'institution. C'est une culture entière qu'il faut repenser. Une culture où la performance sportive féminine soulève le même enthousiasme collectif qu'un but du CH en série. Médias, villes, entreprises, partisanes, partisans, il est temps de revoir notre posture. Il est temps de faire mieux. Parce que ce que l'on célèbre ensemble façonne ce que l'on valorise. Et ce que l'on valorise finit par devenir la norme. Exigeons mieux, agissons mieux, ensemble. La victoire pourrait se qualifier pour la grande finale de la LPHF dès cette semaine. C'est le moment pour tout le Québec de se mobiliser, d'élever nos joueuses, de les inspirer par notre soutien. À Montréal, le resto-bar L'Idéal diffuse déjà les matchs de la victoire sur la route. Tous les lieux qui présentaient les matchs du CH devraient emboîter le pas, eux aussi. C'est le temps de promouvoir et de célébrer ces affrontements cruciaux et de contribuer, ensemble, à rafraîchir la culture sportive d'ici. Où sont les concours, les promos, les activations des commerces et radios qui font battre le cœur des partisans? Quelques médias ont répondu à l'appel, mais trop timidement. Les lignes éditoriales de plusieurs médias spécialisés restent figées. D'autres, pour injecter une dose d'effervescence bienvenue dans une actualité plutôt morose. Des exemples? personnalité publique. Suivez l'exemple de Véronique Cloutier et affichez votre appui sur vos plateformes. Commerçants, un clin d'œil dans vos vitrines. Citoyens et citoyennes, go! Allez suivre la victoire sur ses réseaux sociaux. Encouragez notre équipe. Suivez nos joueuses. Envoyez vos messages de soutien. Rassemblez-vous. École. Embarquez. Mobilisez vos élèves avec des projets thématiques, affiches, soirées de diffusion. STM et STL et à toutes les institutions publiques, la saison des roses vient de commencer. Si vous y pensez maintenant, vous serez peut-être prêt à temps pour leur série. Faisons mieux, célébrons mieux. Non seulement ça fait du bien, mais ça envoie un message fort que notre ville, notre société reconnaît enfin la performance sportive féminine au même titre que celle des hommes. C'était « La ville est-elle victoire? » Un texte collectif de Claudine Labelle, Florence Agathe Dubé-Moreau et Katia Aubin, respectivement fondatrice de Fille Active, autrice et chroniqueuse, et fondatrice de Pivot Collectif, paru le 13 mai 2025 dans La Presse.
Les mines abandonnées dans le nord du Québec coûteront plus de 600 millions à l'État. Un texte d'Alexandre Shields paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir. L'exploration et l'exploitation minière sur le vaste territoire nordique québécois ont laissé derrière pas moins de 245 sites abandonnés qui sont aujourd'hui à la charge du gouvernement. La facture qui sera assumée par les contribuables pour la restauration de ces sites dépassera d'ailleurs les 600 millions et elle pourrait évoluer à la hausse, prévient la commissaire au développement durable. Selon les données inscrites dans un rapport déposé jeudi le 24 avril 2025 par la commissaire Jannick Lambert, le gouvernement du Québec a la responsabilité réelle ou probable de 245 sites contaminés liés aux activités minières en territoire nordique, dont plus de 200 sites découlant d'activités d'exploration minière et 38 sites d'anciennes mines. Le nettoyage et la restauration de ces sites, qui permettent de réduire les risques pour la santé des populations, l'environnement, la faune et la flore, entraîne des coûts importants pour l'État, souligne le rapport. Concrètement, ces sites avaient déjà coûté 24 millions de dollars en date du 31 mars 2024. Mais la facture à venir est nettement plus élevée, avec une estimation de 621,5 millions de dollars. La quasi-totalité de ces coûts à venir, soit 597,2 millions de dollars, sont liés à la restauration des 38 sites d'anciennes mines. Ces coûts sont cependant susceptibles d'évoluer dans les prochaines années, puisque 33 sites d'anciennes mines sur 38 étaient en cours de caractérisation afin d'évaluer la nature de la contamination et son degré, prévient toutefois la commissaire. Elle cite en exemple l'estimation des coûts de restauration de l'ancienne mine principale, l'une des trois dont la restauration est en cours, qui a augmenté de près de 70 % entre 2011 et 2024. Le rapport souligne notamment le fait qu'en territoire nordique, la restauration des sites miniers contaminés peut être plus complexe en raison notamment de leur éloignement, de leur accès difficile, des conditions climatiques rigoureuses et de la présence de pergélisol. La quasi-absence de route, l'accès au site qui n'est possible qu'à certaines périodes de l'année et le manque de disponibilité de matériaux naturels sont également susceptibles d'augmenter les coûts des travaux de restauration. La commissaire cite le cas de l'ancienne mine Asbestos Hill au Nunavik, pour laquelle un facteur de majoration de 50 % a été prévu par le ministère pour les coûts de restauration, étant donné l'éloignement du site qui n'est pas accessible par le réseau routier. À l'échelle du Québec, la facture qui devra être assumée par le gouvernement est estimée à 1,2 milliard de dollars. En date du 31 mars 2024, 248,2 millions ont déjà été dépensés depuis 2006 pour la restauration, la sécurisation, l'entretien et le suivi des sites miniers abandonnés. Depuis quelques années déjà, les exploitants de mines doivent verser une garantie financière pour éviter de laisser la facture à l'État une fois l'exploitation terminée. Protection du territoire. Le gouvernement québécois a pris l'engagement dès 2011 de consacrer, d'ici 2035, 50 % du territoire nordique à des fins autres qu'industrielles, à la protection de l'environnement et à la sauvegarde de la biodiversité. À l'heure actuelle, près de 20 % de la superficie du territoire nordique est protégée, précise le rapport de la commissaire, ce qui signifie qu'il faudra ajouter 30 % d'ici 10 ans pour atteindre la cible. Or, selon les informations que nous avons obtenues de la Société du Plan Nord sur l'avancement de ces travaux, il est envisagé que des activités industrielles, incluant l'exploitation minière, puissent être autorisées sur des portions de territoire qui seraient incluses dans ce 30 %. Il existe donc un risque que les mesures de conservation qui seront proposées au terme de ces travaux ne permettent pas de contribuer à l'atteinte de l'engagement inscrit dans la loi sur la Société du Plan Nord, peut-on lire dans le rapport. Ce même document souligne que les températures à la hausse fragilisent la biodiversité nordique et risquent d'accentuer la perte, la modification et la dégradation des habitats naturels dans les prochaines décennies. Ces changements rapides pourraient menacer plusieurs espèces fauniques et floristiques, ou même entraîner leur disparition. Par exemple, les deux troupeaux existants de caribous migrateurs subissent les conséquences du réchauffement climatique et des activités humaines. Leur population a subi des déclins dramatiques dans les deux dernières décennies, respectivement de 70 % et de 99 %. C'était « Les mines abandonnées dans le nord du Québec coûteront plus de 600 millions à l'État », un texte d'Alexandre Shields paru le 24 avril 2025 dans Le Devoir. »